Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde ? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Jean-Claude Guimau, bonjour.
Bonjour.
Alors, émission aujourd'hui Où va le monde ? À Marseille. On va parler des virus qui auraient finalement tous une histoire. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs.
Eh bien, je suis professeur d'université. J'ai un parcours, une formation universitaire de biologiste. J'ai travaillé au niveau de ma thèse et ensuite autour des questions sur l'immunité innée. Et je travaille depuis 2002 sur les virus émergents. Ce terme même de virus émergent pouvant être questionné par rapport à qu'est-ce que l'émergence. Mais des noms que d'aucuns connaissent, ça va être le virus de l'hépatite C, le virus de la dengue, et depuis 2003 aussi, on travaille sur le SARS, hein, et donc le coronavirus version 1 qui était sorti en Chine. Voilà un petit peu les petites bêtes auxquelles on s'intéresse. Il y a aussi le virus de West Nile, le virus Zika, enfin une diversité en fait de virus avec un ensemble de pathologies associées et d'émergences diverses et variées liées à plein de facteurs différents en fait.
C'est quoi un virus émergent ? Parce que j'ai imaginé ce que ça pouvait dire, mais plus précisément, alors qu'est-ce qu'on peut donner comme définition ?
Un virus émergent, c'est un virus qui arrive dans les pays développés.
D'accord.
C'est un virus qui, jusqu'à présent...
C'est un terme politiquement correct, alors. Il émerge dans les pays développés.
Il émerge chez nous. C'est notre vision auto-centrée. Qui a induit cette terminologie, puisque eh bien, auparavant, si on pense par exemple à le virus West Nile, qui on peut appeler aussi le virus du Nil, eh bien, il était localisé sur les bords du Nil en Égypte. En tout cas, il a été identifié là.
Par rapport à Toutankhamon, je crois, c'est pas ça? Quand on avait ouvert le tombeau, il y avait un virus, c'était celui-ci, non?
Non, c'est un autre.
C'est mon imaginaire qui s'ouvre.
Votre imaginaire qui s'ouvre. En tout cas, cette origine-là, je l'avais pas envisagé.
Mais émergent, c'est ce qui arrive en Europe, aux États-Unis, en Occident?
C'est ce qui arrive. C'est chez nous. Jusqu'à présent, il n'était pas là. Donc, il y a une émergence et on appelle ça des virus émergents. Mais c'est des virus qui... Il faut bien voir que les virus coévoluent ou nous coévoluons avec les virus. Oui. Donc, on est dans un environnement où il y a tout un ensemble de virus. Heureusement, la majorité ne sont pas pathogènes et donc il n'y a pas de conséquences, en tout cas au niveau développement de maladies. Mais comme les virus dépendent de nous, pour pouvoir se multiplier,
se promener.
Forcément, il y a cette interaction très, très proche entre nous et les virus. Et réciproquement, si on n'est pas là, eh ben, ils ne peuvent pas se multiplier non plus.
Ouais, puis le Covid a bien relancé cette idée. C'est-à-dire, je crois qu'on n'avait pas tant peur du virus, mais du déplacement des gens, en fait. C'est les gens qui nous inquiétaient, ce n'était pas spécialement le virus, peut-être.
Oui, et puis avec des modes de transmission, et puis avec un certain nombre de peurs anciennes qui sont enfouies par rapport à la peste, par rapport à...
La grippe espagnole, la peste, tout ça.
Ouais. Exactement.
On a ressorti les images en noir et blanc, on nous a dit bah, c'est la même chose que ce qu'il y a dans les rues en ce moment.
Voilà, ouais. Et tout ça, c'est quand même des peurs qu'on peut considérer comme très ancrées chez l'humain. Et donc, quand on ne comprend pas forcément pourquoi, comment, et puis... malgré l'ensemble des connaissances acquises, chaque virus a sa particularité. D'accord ? Donc, au départ, on ne sait pas exactement quelles vont être ses capacités de dissémination. Est-ce que ce sont des pathologies légères ? Est-ce que ça peut évoluer vers des pathologies beaucoup plus lourdes ?
Et on harcèle les médecins dès que ça arrive pour qu'ils nous disent tout de suite tout ce qui va se passer. La majorité disent qu'ils ne savent pas. Il y en a toujours un parmi le troupeau qui, lui, a tout compris. c'est lui qui va passer le plus souvent à la télévision pour nous dire ce qui va se passer.
Oui, et potentiellement aussi, ça c'est sociétalement, on a besoin, ou l'humain peut avoir besoin
Être rassuré, d'avoir des
d'être
réponses.
rassuré. Et donc, le rassurisme est quelque chose qui est plus entendu qu'un constat qui est je ne sais pas, parce que la réalité de ces émergences, en tout cas au début, on ne sait pas. Donc, on a quand même eu des indications assez rapidement par rapport au Covid que l'enveloppe du virus était différente et que, de par sa capacité à se fixer sur certains récepteurs des cellules, l'histoire risquait d'être différente au niveau de sa dissémination et sa capacité à infecter en fait les individus. Il y avait une nouveauté. Donc dès que la séquence a été connue, il y a eu cette interrogation sur comment ça allait se traduire dans le cadre d'une dynamique de population. Où est-ce que ce virus, comment il allait se comporter? Et en même temps, le virus de première version de 2003, il a eu une dissémination qui a été mondiale, mais le fait est que c'est un virus qui était beaucoup plus mortel, parce qu'il y avait quand même 15% des personnes qui ont été infectées qui sont décédées. Donc, il a été possible de suivre la chaîne de transmission. Et finalement, cette épidémie s'est arrêtée avec le suivi des patients, identifier l'origine, où est-ce qu'ils avaient été contaminés, et l'objectif a été de casser les chaînes de transmission. Et c'est en cassant les chaînes de transmission que l'épidémie a été arrêtée. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de moyens de bloquer la multiplication du virus, qui reste le premier objectif quand même par rapport à ces virus.
Est-ce qu'il est vrai, ça va être un peu simple ce que je vais vous demander, on ne pourra pas y répondre aussi facilement, mais qu'avec le temps, chaque virus devient de moins en moins impactant, en fait, parce que vous parliez des 15%, quand on entend qu'on va vivre avec le Covid et c'est comme ça, on entend ça dans les médias, est-ce que ça veut dire que ça sera de moins en moins létal et de plus en plus anecdotique? Ou est-ce que certains virus peuvent rester avec un impact tout aussi important pendant plusieurs années ou décennies?
Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le virus VIH, où le VIH est resté impactant. Et il n'a
C'est
pas.
les traitements qui peuvent modifier les choses,
Voilà.
mais le virus est tout aussi impactant
Il
qu'au
est tout
début.
aussi impactant qu'au début. Donc, et l'autre exemple, c'est le virus de l'hépatite C. Et ces deux virus, en fait, ont pu être contrôlés de façon différente. Mais pour le VIH, eh bien, on a bien vu qu'il y a quand même une nette amélioration, et heureusement, par rapport à cette épidémie. Donc, il reste important de contrôler la transmission et il y a un arsenal thérapeutique qui permet de diminuer la charge virale, la quantité de virus, qui fait que le système immunitaire des patients n'est plus détruit. Donc, ils ont une qualité de vie globalement correcte qui peut être plus ou moins confortable. Hein. C'est jamais évident d'avoir un traitement à vie. Mais il a été possible d'en limiter l'impact par rapport au désastre que ça a été lorsqu'il a émergé. Pour le virus de l'hépatite C, eh bien, dans ce cas-là, c'est aussi un traitement qui a permis dans ce cas-là, le virus est complètement éliminé chez les patients. Donc, il est possible de guérir et d'avoir une élimination totale du virus. Et dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe pour des raisons qui sont relativement bien décrites? C'est qu'il y a un échappement du système immunitaire. Donc, notre système immunitaire chez l'humain n'est globalement pas en capacité de lutter contre ces virus pour différentes raisons. D'où l'importance de la molécule chimique et de l'antiviral qui va diminuer la quantité de virus dans les deux cas, l'éliminer pour le virus de l'hépatite C et le diminuer suffisamment pour qu'il devienne non pathologique pour le VIH chez les patients qui sont séropositifs.
Alors, vous en parliez, vous avez énoncé le VIH, et il y a quelque chose aussi d'intéressant, je trouve, dans la question des virus, c'est comment on a constitué l'histoire, comment on l'a déconstruit, notamment pour le sida, on a tout un florilège d'histoires qui ont été racontées sur son apparition. Je ne sais pas quel crédit on peut donner à ces histoires que l'on raconte. Moi, je repense au Covid, il y a l'histoire du pangolin, il y a la Chine. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une histoire officielle et puis une histoire qui est acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique. J'imagine que non. Je sais pas où on en est d'ailleurs. Le démarrage avec les athlètes des JO, la procession religieuse dans l'est de la France. Quand est-ce que ça a commencé? D'où ça a démarré? D'où ça vient? Est-ce que ça, c'est important en fait pour pouvoir endiguer un virus, de connaître son histoire? J'imagine que oui, en fait.
Une première évidence, c'est que c'est important de comprendre pour ne pas reproduire, puisque il y a quand même un risque non négligeable. Donc, savoir d'où vient ce virus et d'autres, c'est aussi mettre en place potentiellement des mesures qui puissent permettre d'éviter la reproduction de ces situations. Ensuite, eh bien, soit il y a une origine à partir d'animaux sauvages et de transmission autour de ce fameux marché. La proximité du marché avec un laboratoire P4 fait qu'il y a un certain nombre de questionnements aussi par rapport à l'origine potentiellement d'une modification de ce virus dans un laboratoire. Actuellement, il n'y a pas de consensus sur l'origine de ce virus.
Vous pensez qu'il y en aura un jour?
Il y a eu à nouveau une demande de l'OMS de façon à ce que la Chine permette d'avoir une nouvelle délégation de venir pour essayer avec comme objectif de répondre à cette question. À partir du moment où peut-être pas lié uniquement au Covid, peut-être que lié au Covid, même ça, la réponse, elle n'est pas connue. Il y a quand même eu des bases de données de ce laboratoire P4 qui ont été éliminées, des données informatiques, soit il y a
Pas
eu,
toujours fiable l'informatique, hein.
voilà, soit il y a eu une panique par rapport à un certain nombre de travaux.
Ouais.
Voilà, là-dessus, on peut discuter des heures, des jours, des semaines. La seule réponse, c'est on ne sait pas.
Parce qu'il y a une dimension politique, mais qui permettrait pas forcément aux scientifiques de pouvoir aller au bout de leur raisonnement pour pouvoir aider la santé publique, quoi.
Il faut avoir le retracer l'historique, pardon, les différentes étapes
Ouais.
qui doivent permettre d'identifier effectivement, comme ça a été un petit peu le cas avec le IH, avec le patient zéro, avec l'origine géographique. Et savoir comment d'où ça vient.
Et puis je me dis que il y a une intrication quand même très forte entre la question politique et ces enjeux de santé publique, puisque notamment les politiques ont pu parler de la question de la migration des populations, des aéroports qui continuent à accueillir les Chinois en masse, alors qu'à d'autres endroits on fermait les frontières. Donc je me dis que on peut venir rapidement venir chatouiller le scientifique pour qu'il se mette à se positionner pour faire plaisir à l'échiquier politique, ce qui peut être un peu dérangeant aussi, parce que c'est pas forcément la volonté de savoir si on ferme ou pas les frontières, ou parler de déplacement de virus à travers des êtres humains, et puis voilà quoi.
Oui, il n'y a pas que l'humain. Je peux prendre un autre exemple qui est le virus que j'ai mentionné tout à l'heure, le virus West Nile. Lui, c'est un virus qui se transmet aussi par un hôte intermédiaire que sont les oiseaux. Et quand il y a eu l'émergence du virus West Nile aux États-Unis, c'était à Manhattan. Et le premiers patients qui ont eu ces méningites liées au virus West Nile n'ont pas été correctement diagnostiqués parce que l'environnement médical n'envisageait pas que le virus West Nile soit présent à Manhattan.
C'était à la fin des hypothèses, on s'est dit, bon, ça nous
C'était des gens
concerne
qui
pas.
n'avaient pas voyagé,
Voilà.
donc ça ne pouvait pas être des cas
D'accord.
importés. Donc voilà, chemin faisant. Il y a eu de l'import illégal d'oiseaux entre l'Égypte et les États-Unis.
Ouais.
Et en fait, eh bien, c'est un virus qui est transmis aussi par les moustiques, des oiseaux qui étaient infectés, et ça a commencé de cette façon. À partir du moment où le milieu médical a eu l'information que, attention, il y a du West Nile qui est présent sur le sol et on doit être vigilant, bah, la prise en charge des patients a été bien meilleure et donc il y a eu moins de décès, mais c'est quand même un impact important puisque ce sont des pathologies neurologiques avec des patients qui peuvent rester handicapés à vie. Enfin,
Ouais.
c'est très lourd
Et puis il faut
comme
pouvoir, faut
résultat.
pouvoir valider cette hypothèse rapidement parce que ils ont dû se dire, bah tiens, ça ressemble à ce qu'on a pu lire de l'autre bout du monde, mais c'est pas possible que ce soit chez nous. Donc après, il doit y avoir, j'imagine, un transfert de connaissances assez rapide de médecins du coin égyptien aux médecins américains pour dire, bon, bah voilà, bah, nous, comment on traite ce genre de choses, puisqu'apparemment, vous avez les mêmes problèmes que chez nous, même si c'était impossible, bah ça l'est, quoi.
Oui, et puis d'aller rechercher aussi ben, soit les anticorps présents chez les patients,
C'est
etc. Donc
ça?
générer les outils
Ouais.
qui, comme on a connu avec le Covid, permettent d'avoir un diagnostic.
Ouais.
Il y a pas Mais si on ne se pose pas la bonne question, on n'arrive pas au diagnostic de toute façon.
Exactement. Alors, on dit souvent que la surpopulation serait la cause du développement des virus, ça pourrait être aussi la question de l'hygiène, la question de la vaccination. Tout le monde y va un petit peu de son argument. Vous allez probablement répondre tout de suite, bah, ça dépend du virus. Mais d'une manière globale, j'aurais voulu savoir si, selon, enfin, qu'est-ce qui était anticipé en termes de santé publique en fonction des différents territoires.
Alors, en fonction des différents territoires, vous avez utilisé un terme qui est maladie tropicale en parlant du virus West Nile. Donc déjà, il y a une sémantique autour des virus émergents qui mériterait peut-être d'être travaillée. Parce que le virus, il n'a rien de tropical en fait. Qu'est-ce qui fait que ces virus, ils sont davantage localisés
Oui, à
dans des
partir du moment où il est là,
pays
il est plus tropical, quoi.
tropicaux?
Ouais.
Eh bien, c'est un ensemble plutôt de raisons ayant trait au développement économique, effectivement à l'hygiène, aux suivis médicaux et le fait que potentiellement il y ait un meilleur contrôle de ces virus. Il ne faut pas oublier peut-être que le virus de la fièvre jaune dans les années 1900 était présent au Danemark. Il était présent à Philadelphie et il y a eu de fortes émergences de la fièvre jaune, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et Europe du Nord, parce que, eh bien, en fait, il est possible d'avoir ces émergents. Ensuite, eh bien, dans les pays développés, il y a eu la grande période du DTT de façon à tuer les moustiques. On peut prendre l'exemple de la Camargue où il y avait du palu dans les années 60 en Camargue. Et donc, je ne fais pas l'apologie du DTT. Mais bon, ça fait que ça a complètement éliminé la présence du palu et la transmission et le fait qu'il y avait du palu en Camargue dans les années 60 en France. Donc il faut le voir de cette façon aussi le niveau de l'environnement de santé, où eh bien, les gens, quand ils vont être malades, ils vont quand même ici être pris en charge dans des hôpitaux, ils vont être plutôt isolés, alors que dans d'autres pays, eh bien, ils vont continuer à vivre aussi bien qu'ils peuvent, même s'ils sont malades, et donc le virus va continuer à se disséminer. Donc, par rapport à ça, c'est sur la question de pourquoi différentes régions, quels sont les moyens de mise en œuvre. Je pense que déjà, si on n'appelle pas ces maladies des maladies tropicales, c'est bien, parce qu'il y a une forme d'acceptation et de fatalisme par rapport au fait que on est dans les tropiques et il y a ces maladies. Non, c'est un problème de santé publique qui n'est pas adressé correctement par rapport à éliminer ces virus. On peut prendre un autre exemple, par exemple, à La Réunion et l'émergence du chikungunya qui a été majeure. Ça a correspondu à une suppression des budgets pour la démoustication au niveau de La Réunion.
D'accord.
Et donc, 2 ans après, il y a eu l'émergence du
Parce que
chikungunya.
France, donc France égale métropole ou hexagone.
En fait, c'est.
Est-ce que c'est ça ou peut-être j'ai mal compris,
Non,
hein?
cette décision avait peut-être été prise, j'ignore l'origine, par rapport à
D'accord.
des questions économiques, par des questions
Oui.
environnementales, de façon à ne plus utiliser des produits
D'accord.
qui sont aussi potentiellement à maîtriser au niveau de leur utilisation, aussi bien sur l'impact chez l'humain que la faune. On va pas.
Mais c'est vrai que c'est une vraie question, parce qu'entre Marseille, entre Lille, entre Fort-de-France ou entre Saint-Denis-de-la-Réunion, c'est pas, c'est, on n'est plus du tout dans la même situation, en fait.
On n'est plus dans la même situation et
C'est pas le même climat, c'est pas les mêmes populations, c'est pas la même gens au mètre carré, voilà.
en pleine période Covid, une des plus grandes difficultés au niveau de santé publique à La Réunion, c'était une émergence de dingue qui a été très forte. Donc il y a un nouveau vaccin contre le virus de la dingue, mais il n'y a toujours pas d'antiviraux contre ce virus. Et donc là, bah, on est dans ce questionnement sur qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir ou pas des médicaments contre ces virus.
Est-ce qu'on, enfin, moi je pense à haute voix, je me dis que c'est peut-être la question de l'impact économique et que s'il y avait le virus de la dengue qui sévissait à Paris, ça serait réglé en fait.
Ça serait certainement. Alors, régler, il faudrait
En tout cas, on se
en
donnera
tout
les
cas
moyens.
se donner les moyens de le faire. Ce qui se passe, c'est que si on prend les deux exemples que je mentionnais tout à l'heure au niveau du virus de l'hépatite C et du VIH, ce sont deux virus pour lesquels il y avait c'était un problème de santé publique important dans les pays développés. Puisque quand on arrive avec des chiffres pour le virus de l'hépatite C, qui sont un pourcentage significatif de personnes qui l'ont. Donc, on peut prendre le côté, ben, soit c'est important et donc on va s'occuper des patients, on va trouver des médicaments. Il y a peut-être une autre logique qui est le marché est établi, donc il va être possible de développer des médicaments contre ces pathologies parce que on peut identifier à la fin quel va être le marché, comment effectivement on peut le chiffrer. Cette question-là et ce regard qui est le fonctionnement des entreprises d'une manière générale, les entreprises, elles vont aller dans des directions qui font qu'il y a un marché. Et si ce marché, il est plus ou moins flou, elles vont pas y aller. Donc, il y a peut-être une autre façon de travailler aussi qui pourrait faire eh bien, il y ait une fondation un peu plus avec une logique différente qui se donne cette priorité pour effectivement développer des médicaments contre ces pathogènes. Et on a vu que vous avez mentionné la dengue. La dengue, il y a des cas autochtones, c'est-à-dire des personnes qui sont infectées et qui ont par le virus de la dengue, qui ne sont pas allées à l'étranger. Et il y a eu un cas récemment en Île-de-France. Et il y a des cas, alors c'est un faible nombre de cas, mais à partir du moment où les vecteurs, c'est-à-dire les moustiques et les sous-familles de moustiques sont présents sur quasiment tout l'ensemble du territoire et on a pu cartographier effectivement la remontée vers le nord de ces moustiques. La question n'est pas si il va y avoir une émergence de la dengue en Europe, mais quand. Mais par rapport à ça, on préfère regarder dans une autre direction que de se dire, voilà, on va avoir un problème de santé publique majeur, il faut vraiment répondre à cette question. Par rapport à mon activité précédemment, je veux dire avant la période Covid, quand j'expliquais qu'on travaillait sur les virus émergents, quelques slides sur l'impact économique, parce que l'impact économique, par exemple, de la dengue dans les pays en voie de développement, c'est chiffré, il est majeur. On me regardait de façon un peu incrédule finalement, parce que qu'est-ce qu'ils nous racontent à nous faire peur avec ces virus,
Ouais,
l'impact
peut-être un peu pessimiste,
économique.
un peu.
Nous, on est super clean, on est super fort, et c'est des maladies tropicales, donc on les laisse à distance. Hein, et on n'est pas concerné par ces
On comprend
maladies
d'autant plus ce que vous
tropicales.
dites sur le mot tropical.
Alors que il faut oublier. Ce terme, ce sont des pathologies qui sont présentes et par rapport auxquelles il faut qu'on ait le bon arsenal thérapeutique. Alors c'est vrai que chaque virus est différent. Donc là, les objectifs au niveau de la recherche, c'est d'avoir des approches thérapeutiques panvirales, hein, qui vont concerner plusieurs virus de façon à avoir un médicament ou quelques médicaments qui puissent être utilisés par rapport à plusieurs virus. On peut comprendre que avoir un médicament, vu le coût de développement de médicaments, ça puisse être compliqué, mais on n'a pas d'autres alternatives. Par contre, et on voit très bien en période post-Covid, qu'on a déjà oublié ce qu'il fallait faire.
Justement, je vais vous prendre une phrase que vous m'avez dite il y a quelques minutes. L'important, c'est de comprendre pour ne pas reproduire. Alors, j'ai trouvé ça merveilleux. Et puis, je me suis dit, mais en fait, dans la théorie, tout va bien, comme on dit. Parce que je repense à tous ceux qui se sont conjurés devant Dieu qu'ils allaient tout changer en passant à la télévision en plein Covid. Je pense que il me semble qu'on apprend à oublier en fait tout ça, c'est derrière nous, quoi.
L'humain a une forte capacité ou un fort besoin, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut vraiment là le mettre en exergue, une forte capacité d'oubli.
Oui, parce que vous parlez finalement aussi de, non pas du bon sens, mais de comment on va accepter ce bon sens, la question du déni. Comme pour les, c'est une question qui est relative aussi à ce qu'on va entendre dans l'écologie, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, et puis quand ça commence à brûler, on se dit, bon, il y a un problème. Ce qui est toujours agaçant pour celui qui a vu le départ de feu.
Mais moi,
On ne se
c'est très.
déplace pas pour rien, on ne se met pas en route pour rien. Le préventif, la prophylaxie, tout ça, c'est chiant parce que c'est pas certain non plus.
Oui, mais si on ne regarde pas précisément, on ne peut pas agir de façon
Et
pertinente.
puis c'est votre boulot en fait. Vous n'êtes pas là d'une certaine manière quand la forêt a fini de brûler. Vous êtes là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de feu. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose de peut-être antinomique par rapport comment dire, au fonctionnement qui n'avance pas de l'être humain, qui est de toujours attendre malheureusement qu'il y ait un souci, quoi.
Le fait d'arrêter, par exemple, le séquençage, on va parler de choses où tout le monde maintenant, je pense, est monté en compétence avec le Covid. Donc, déterminer la séquence du virus, ça permet d'avoir une vigilance, une surveillance par rapport à l'évolution de ce virus. Alors, peut-être pas tous les patients, mais la très forte diminution de cette approche est préjudiciable par rapport à ce qui peut se passer dans la suite. Si on est dans une situation où on va réagir au moment où les urgences sont saturées comme ce que l'on a connu assez récemment, c'est un peu un non-sens. C'est un non-sens de ne pas être dans cette capacité à avoir les outils de surveillance. Et ça a été oublié
Donc
tout de
collectivement,
suite.
on se ment perpétuellement. Ou alors
Oui.
on est occupé par la mouche qui vole, quoi. Mais quelque chose de grave il y a 2 heures et puis on est passé à autre chose, quoi.
Oui, comme des recommandations qui sont étonnantes si vous avez le Covid et que vous êtes positif, si vous pouvez, restez chez vous. OK. Mais alors déjà, sociétalement, c'est quelque chose de très injuste. Hein. C'est-à-dire si votre job vous permet d'être en télétravail ou si vous pouvez rester chez vous, restez chez vous. Mais il y a quand même beaucoup de métiers qui ne sont pas
Ah bah
télétravaillables
ça
et
c'est
où les
sûr.
gens ne peuvent absolument pas se permettre de rester chez eux, ne serait-ce qu'économiquement. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui va aller travailler avec le Covid, donc qui va gaillardement le distribuer autour en prenant les transports en
C'est
commun
ça.
et compagnie. C'est comme si on avait complètement oublié les bonnes pratiques
Je
par
vous le
rapport à la
confirme,
présence du virus.
parce que je l'entends autour de moi. Déjà, avoir le Covid, maintenant, c'est un peu passé de mode. Quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression qu'on ne sait plus comment faire, en fait. Voilà. Donc, on doit se trimballer dans toutes les salles d'attente pour pouvoir avoir son arrêt. Et puis, finalement, ça se propage, ça se propage. Et j'ai envie de dire, c'est comme si la peur ayant disparu, les bonnes pratiques également, quoi. Il faut qu'il y ait la peur, forcément. Il faut qu'il y ait la crainte.
Ouais, il y a ça, mais il y a une question aussi
Comme une médiatisation, c'est plus à la mode. Vous voyez,
de
c'est.
culture, à savoir que même dans le monde médical, j'étais très surpris. Il y a un médicament, peu importe son nom, mais enfin, je n'ai pas d'intérêt économique avec la société qui le produit, mais qui permet de bloquer une des protéines du virus. Mais il est important de le prendre dès qu'on a les premiers symptômes, d'accord, pendant quelques jours. Et donc, ça s'appelle une approche prophylactique, c'est-à-dire qu'il faut avoir le médicament. Si on a le Covid, on le prend. Ça va diminuer la quantité de virus, donc il va y avoir moins de symptômes et les pathologies vont être plus légères. Ça fonctionne globalement pas trop mal. Et à partir de ce constat, en fait, les médecins ne le prescrivent pas. Et j'ai
Vous avez une
suggéré.
explication alors justement?
Parce qu'une des
Mauvaise
réponses qui a
pub.
été apportée par certains, c'était je connais pas ce médicament, mais après.
Les patients aussi sont peut-être déçus de se dire ah bah ça va pas me guérir, donc quel est l'intérêt? Ouais, d'un seul coup je trouve ça intéressant parce qu'on a
C'est
une
pas.
solution mais on l'oublie.
Il y a d'abord un regard statistique, c'est que
D'accord.
ce médicament, la prescription aux États-Unis, elle est importante. Elle est très faible en France et assez moyenne en Europe.
D'accord.
Donc c'est une question d'approche globale au niveau du système de santé, des recommandations qui sont faites et de comment il est possible de lutter collectivement par rapport à la dissémination du virus. Donc j'ai
Donc
pas.
échec commercial d'un produit qui pourrait aider du monde, mais voilà, il n'y a pas l'investissement affectif, on n'y croit pas, on oublie.
Ouais, je vois plus comme un échec sanitaire qu'un échec commercial, en fait. La première chose, c'est qu'il y a une possibilité de protéger un certain nombre de patients et que cet outil n'est pas utilisé. Donc, je n'ai pas toutes les réponses parce que j'ai une vision très, très parcellaire hein, de personnes auxquelles j'ai conseillé, pour des questions d'âge ou de pathologies associées, de se le faire prescrire et leur médecin leur a dit non. Non, parce que. Je ne connais pas le médicament, quelque part, enfin, voilà, parce qu'une approche prophylactique n'est pas quelque chose qui est très développé et que donc prendre un médicament au début d'une pathologie, peut-être que c'est au niveau de la formation où le médecin il va soigner des symptômes, il va être dans cette approche un petit peu l'étape d'après. L'étape d'avant, j'ai l'impression qu'il y a une zone grise en fait par rapport à la façon dont c'est adressé.
D'accord. J'ai une question un peu plus globale, qui peut être un peu catastrophiste, hein, finalement, ça va dépendre de vous. Vous avez la sensation que le pays est quand même assez prêt, pour les prochains enjeux, en fait? Les prochains virus, les prochaines pandémies,
Non, il reste beaucoup de travail par rapport à une vraie volonté, vraie coordination de pouvoir adresser ces questions.
Dans le pays, vous voulez dire?
Oui, qui est.
ARS, hôpitaux, médecins de ville,
Alors, il y a ce côté-là,
scientifiques, les
bien
labos,
évidemment.
tout le monde là.
Il y a. Moi, j'étais très surpris de me rendre compte parce que dans le cadre de stage de certains de mes élèves, en 2019, c'est une élève stagiaire qui a mis en place le labo de séquençage dans un grand hôpital en France. Et donc un stage super intéressant, mais j'étais un peu surpris. En fait, l'approche de séquençage opérationnelle l'a été au mois d'août 2019. Ça faisait un moment quand même qu'on savait que le virus était là, on était post-confinement, ça veut dire que dans cette zone géographique, il n'y avait pas de séquençage à grande échelle qui était fait, il n'était pas prêt. Et ensuite, à partir du moment où on fait ce constat, ça veut dire qu'il y a une méconnaissance au niveau des bonnes pratiques et qu'il n'y a pas cette veille réalisée à grande échelle. Alors peut-être pas dans tous les hôpitaux, mais on pourrait peut-être avoir quelques hôpitaux un peu phares répartis géographiquement, mais aussi bien évidemment. On a parlé de la Réunion, mais ça pourrait être Guadeloupe, ça pourrait être Polynésie pour savoir exactement qu'est-ce qui circule et avoir un travail beaucoup plus systématique qui, oui, demande des moyens peut-être, mais à un moment, c'est aussi, il faut regarder les chiffres, quoi. Il faut regarder les chiffres par rapport à ces zones géographiques, déjà l'impact au niveau des personnes qui y habitent, qui est très important, d'accord? Parce que quelqu'un qui a le virus de la dengue, qu'est-ce qu'on lui dit? Prends du doliprane et restez chez vous, hein, il n'y a pas d'autre proposition. Alors qu'il peut y avoir des conséquences médicales fortes, mais à partir du moment où il n'y a plus de tourisme, économiquement, c'est quand même des territoires qui vont être aussi en difficulté par rapport au fait que ça va peut-être être encore plus compliqué et éventuellement, les gens vont se poser la question d'y aller. On peut se poser la question aussi d'une épidémie de dengue en plein été en France. On entend toujours que l'impact touristique est économiquement important. C'est ça qu'il faut mettre dans la balance.
Oui.
Par rapport aux chiffres, par rapport aux moyens à développer, c'est quelles vont être les conséquences de ne pas travailler sur ces questions. Donc, on a parlé du côté santé publique, mais on peut aussi parler du côté information d'une manière générale et l'absence de culture scientifique dans l'ensemble des équipes, des différentes rédactions, que ce soit télé et ou presse écrite ou web. Enfin, on est dans quelque chose de très homogène. On a des journalistes qui font très bien les métiers, il n'y a pas de soucis, mais qui ont la culture Sciences Po globalement. Si on regarde un petit peu quels sont les parcours la majorité des journalistes, donc très rapidement, et on l'a bien vu avec le Covid, on a les mêmes questions posées aux mêmes personnes, mais il n'y a pas de pertinence par rapport à l'information scientifique.
Oui, et puis si la question n'est pas la bonne, en fait, la réponse, on s'en fiche, quoi.
Oui, et sauf que...
Même si on l'entend toute la journée, la réponse, en fait, ça la rend pas plus pertinente, quoi.
Oui, mais cette question, cette prééminence de l'actualité politique peut être questionnable aussi par rapport à d'autres enjeux sociétaux. Mmh. Et si il y avait une culture scientifique, il y aurait un intérêt pour ces questions, on interviewerait les personnes en capacité de répondre, et il y aurait ça contribue aussi à une culture générale de la population qui va avoir un intérêt différent. Et c'est pas pour manipuler les peurs, c'est pas pour, mais peut-être qu'en connaissant mieux, il est possible de discuter de façon apaisée et collectivement de faire des choix par rapport à ce qu'il faudrait faire ou pas finalement. Ouais. Parce que c'est un petit peu ça de vivre en société, que là on est dans quelque chose qui est assez étonnant. Sur le déni en fait global collectif d'une situation qui doit simplement être adressée avec développer les bonnes outils, avoir les bonnes réponses et puis travailler dessus, sachant que notre système économique ce ne sont pas des entreprises qui vont développer ces médicaments contre les virus émergents, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de marché établi. Le marché, il est flou. Donc, il faut travailler différemment. Mmh. Et là, on ne peut que souligner l'importance de la recherche fondamentale. C'est vrai par rapport à ce sujet et c'est vrai par rapport à d'autres sujets qui, travaillant depuis de nombreuses années, ont été en capacité d'apporter des éléments de réponse très pertinents. C'est un travail, c'est le résultat d'un travail de plus de 20 ans qui fait qu'il est possible de comprendre et donc potentiellement d'avoir un regard différent et de pouvoir tester des molécules contre ces virus aussi.
Oui. Bon, on va sur la dernière question de l'émission. Jean-Claude Guimau, selon vous, où va le monde alors ?
Alors, où va le monde ? Eh bien, je pense que collectivement, il reste beaucoup de travail à mener ensemble sur avoir une approche un peu plus collective pour adresser ces questions. C'est vrai dans ce domaine, et par rapport aux thématiques qu'on vient d'aborder, mais c'est vrai dans d'autres, que Si chacun continue à nager dans son couloir de nage, eh bien, éventuellement, il va arriver à faire des allers-retours jusqu'à un moment, en fait, où il n'y aura plus d'eau dans la piscine, mais personne ne va s'en rendre compte. Donc, c'est peut-être pas mal à un moment d'avoir des approches beaucoup plus collectives, partagées. Mais bon, tout ça, il faut aussi arriver à avoir un niveau d'éducation qui permette de réfléchir, de discuter, de comprendre. Et je ne cacherai pas que si on regarde simplement en France les modifications qu'il y a eu sur la réforme du bac, je les trouve très préoccupantes, puisque c'est un affaiblissement majeur de l'enseignement scientifique, comme si déjà on voulait tous les amener vers Sciences Po en bac et qu'on oublie que les maths, la physique, la biologie, eh bien, ça permet aussi d'avoir des métiers tout à fait intéressants. Donc, je parlais tout à l'heure de la sciencepoisation de notre information. Je crains qu'il n'y ait, que ce soit encore pire avec en envisageant dès le lycée ce type d'approche en fait. Mais bah, nous de faire en sorte collectivement que peut-être que maintenant, bah, il est peut-être plus important de faire de l'ornithologie, de connaître les oiseaux, de connaître son environnement et d'avoir une lecture de l'espace et de la nature, c'est peut-être une des pistes, hein, de façon à avoir aussi des capacités décisionnelles qui soient un peu plus à 360 que par rapport à un certain nombre de décisions actuellement qui sont plus des décisions de taupes en fait. C'est des taupes dans leur tunnel, mais on oublie complètement le regard sur les évolutions. On a une accélération très forte au niveau des décisions qui doivent être prises et on entend des schémas et des discours qui sont vraiment datés par rapport à bien ce qu'il faudrait faire, où il faudrait aller plus vite, plus loin maintenant par rapport à adresser ces questions qui sont intéressantes, mais qui doivent être menées à une échelle beaucoup plus collective.
Jean-Claude Guillemot, merci pour toutes vos réponses et merci pour la métaphore de la piscine parce que je l'ai trouvée assez parlante. Les taupes dans les labyrinthes et la piscine m'ont donné à penser, à réfléchir. Voilà.
Je vous remercie. Très bonne journée.
Merci.